Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au cœur du Lotus. C'est avec une joie immense que nous continuons ce podcast sur les femmes inspirantes. Et c'est avec Paula Van Grut aujourd'hui que nous avons rendez-vous une seconde fois pour le deuxième volet de ce triptyque. Et dans cet épisode, elle va nous parler de sa passion, de sa profession, de sa manière d'exercer avec passion. Bonne écoute!
Bonjour Paula.
Bonjour Adi.
Merci encore de m'accueillir aujourd'hui dans ton merveilleux, j'appelle cabinet de curiosité, Amour est sur loin. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu me parles, que tu nous parles de cette activité que tu as, de la lecture du ciel, ta manière de lire le ciel, d'appréhender le ciel, de partager en fait à tes consultants leur ciel.
Très bien. Donc effectivement, moi je trouve que c'est intéressant de partir du principe qu'il faut savoir qu'un ciel, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Il n'y a pas une lecture unique d'un ciel de naissance. Il existe un langage, qui est le langage astrologique, hein, où effectivement, bah, quand on est astrologue, on apprend. Le symbolisme, hein, des planètes, le symbolisme des signes, des maisons, comment lire les aspects et tout ça. Mais comme tout langage, ça implique en fait que quand on le manie, on a notre propre sensibilité. Moi, je considère que voilà, c'est comme la langue française. La langue française, on connaît tous le dictionnaire, on partage des mots, mais comment on va agencer les mots les uns avec les autres et quelle histoire on va raconter, ben ça demande en fait d'avoir de la sensibilité. Et puis voilà, chacun va voir de sa perspective aussi ces choses-là. Et comme j'ai ce côté aussi artistique, moi, je considère que quand on est face à un thème astral, on est quasiment comme si on était face à une partition de musique. Et certes, la partition de musique, elle raconte des choses qui sont... Voilà, les astrologues, ils vont se mettre d'accord, disons, sur les points clés d'un thème. Mais la façon dont on va interpréter ce thème va être profondément teintée, disons, de la sensibilité de l'astrologue, mais aussi, et surtout d'ailleurs... de la présence du consultant. Moi, je considère que quand on fait une lecture de thème, moi, je le fais toujours sous forme de dialogue. Je ne fais absolument pas de lecture de thème à distance où je suis juste face au thème de quelqu'un et je vais écrire 10 pages et envoyer. Je sais qu'en France, c'était un peu la tradition des années 80. Les gens, ils demandaient voilà, leur rapport astrologique. C'est une façon de faire, hein, mais moi, c'est absolument pas la mienne. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je fais mon travail de préparation, où voilà, le côté très, disons, cartésien se met en place, quoi. C'est-à-dire d'aller regarder, voilà, qu'est-ce qui est activé, quels sont les principaux aspects, comment le thème, voilà, est agencé. Donc, je fais tout ce travail, je dirais un peu de, voilà, le côté rationnel et analytique, hein. Mais une fois que je suis face à la personne qui est en face de moi, je travaille, je dirais, avec mon côté analogique, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de raconter une histoire, mais raconter une histoire où il y a un dialogue. Et de comprendre aussi où est-ce que la personne, elle en est aujourd'hui aussi de sa vie. Parce que certes, le thème de naissance vient parler, disons, de la psyché de la personne de façon, disons, constante tout au long de sa vie. Mais quand quelqu'un vient pour une lecture de thème, cette personne, elle se trouve à un moment de sa vie. Donc, il faut que cette lecture de thème puisse faire sens aujourd'hui. Sinon, à mes yeux, ça ne sert à rien. Donc, pour moi, le thème astral, disons, de naissance, c'est comme une fenêtre ouverte sur la psyché de quelqu'un. Et quand on parle de psyché, dans notre esprit moderne, la psyché, c'est beaucoup le psychologique de quelqu'un. Et c'est vrai que j'ai un tropisme psychologique très fort. Pour moi, le thème astral, il est comme cette fenêtre qui permet en fait de comprendre les dynamiques internes de quelqu'un, les points de blocage aussi de quelqu'un, les facilités aussi qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'en fait, un thème astral va vraiment révéler tout ça. Mais psyché, c'est pas que psychologique. Psyché en grec veut dire âme. Donc quand on est en train de regarder le thème astral de quelqu'un, on est en train de regarder aussi l'incarnation d'une âme, parce qu'au centre du thème, il y a ce qu'on appelle la croix de l'incarnation. Et on est en train de regarder les conditions d'incarnation d'une âme. Donc, quand on a cette conscience-là, on se rend compte que oui, le thème va parler beaucoup des dynamiques intérieures de quelqu'un, mais le thème déborde le sujet. Parce que parfois, dans un thème, on va regarder, on va voir les conditions, rapport aux parents, parfois même certaines expériences qui vont se cristalliser à l'enfance, adolescence de quelqu'un, qui vont profondément marquer la cristallisation de cette personne, de cette identité. Donc, quand je regarde le thème de quelqu'un, mon but vraiment précis, c'est que la personne puisse se voir avec plus de clarté. C'est un peu ce qui se trouve à Delphes, hein, connais-toi toi-même, quoi. Et pour moi, le thème astral, c'est un miroir qui nous permet en fait de se voir en fait un peu plus clairement. Et à partir du moment où on se voit avec plus de clarté, à mes yeux, on devient plus libre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se connaît mieux, on est plus aligné, on va pas éviter nos zones d'ombre, on va les regarder. Et la beauté du thème, c'est qu'il le montre. On voit en fait ce qui est caché aussi. Donc, dans une lecture de thème, il va y avoir des moments où la personne va se reconnaître, s'il y a du connu. Et d'ailleurs, ça rassure, parce que les gens, ils se disent, bah ouais, c'est moi. Ah oui, oui, c'est moi. Mais le thème, c'est pas que ça. Le thème aussi, c'est de révéler des choses que peut-être la personne ne voit pas encore. Et donc, c'est d'être dans ce dialogue avec l'autre. Et ce que je trouve magnifique, c'est que donc, l'astrologue, lui, il peut parler de l'archétype. Mais il ne peut pas savoir exactement comment ça va se manifester dans la vie de la personne. D'où l'importance d'avoir la personne en face de soi et de poser des questions. Alors, je vois que dans le ciel, il y a telle configuration. Symboliquement, ça vient parler de ça, de ça, de ça. Est-ce que ça te parle ? Comment ça s'est manifesté dans ta vie ? Et qu'est-ce que ça réveille chez toi ? Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que tu ressens de ça ? Et la personne, du coup, elle est dans une co-création. Et dans une... J'ai l'impression que c'est quasiment comme si on était en train de révéler, en fait, des choses. Et donc, c'est une leçon à mes yeux. Hein. Une lecture de thème, c'est une école. C'est une école de la vie. C'est une école d'humanité. C'est toucher du doigt aussi la dimension sacrée, en fait, d'une existence. C'est magnifique, c'est tellement beau. C'est pour ça d'ailleurs aussi que je considère que quand on fait une lecture de thème, il faut qu'on ait énormément de respect pour le ciel, pour la personne qui est en face. Parce qu'on est en train de rentrer dans la dimension la plus intime de quelqu'un, qui est son âme. Donc on ne peut pas rentrer avec des gros sabots de « j'ai compris, t'es comme ça, je te mets une étiquette ». Malheureusement, je vois parfois certains astrologues qui utilisent l'astrologie comme une sorte d'instrument caractérologie très figé, quoi. Moi, ça me parle absolument pas cette façon de faire. Moi, je viens pas voir un astrologue pour qu'un astrologue me mette une étiquette, quoi. C'est pas du tout ça. Moi, je préfère mille fois plus aller voir un astrologue qui est capable d'essayer en fait de révéler des choses, de me comprendre, de m'aider aussi à me comprendre, plutôt que d'être dans quelque chose de péremptoire, tu vois. Et je suis pas là non plus pour utiliser tout mon savoir astrologique et parler compliqué, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que si tu fais une lecture de thème et que ton consultant comprend pas ce que tu dis, c'est un peu problématique aussi. Donc, je peux être extraordinaire dans la compréhension des arcanes ésotériques astrologiques. Mais si la personne qui est en face de toi ne comprend pas, je suis désolée, à mes yeux, c'est raté. Parce qu'il faut que ça puisse toucher la personne. D'où l'importance du raconter. On raconte une histoire quand on fait une lecture de thème. Mais on raconte une histoire avec l'autre. Il faut que l'autre aussi participe. Et c'est ça qui est magnifique. Et donc la personne, en fait, elle se voit, en fait. Elle se voit dans une sorte de pièce de théâtre. C'est quelque chose de magique, quoi. Et c'est là, en fait, où mine de rien, je me dis que mon parcours de communicante m'aide beaucoup. Parce que j'ai toujours adoré raconter des histoires. Je trouve ça génial. Et je pense que quand on raconte une histoire et que la personne, elle se voit dans cette histoire, elle peut réfléchir sur cette histoire, elle peut mettre aussi, voilà, elle va dire « Oui, ça s'est manifesté comme ça. » Et après, l'astrologue, dans une sorte de ping-pong, commence à devenir de plus en plus précis dans sa lecture. Voilà, c'est un moment de magie, quoi, une lecture de thème. C'est magnifique. Et à chaque fois, je remercie les personnes parce qu'elles m'ont fait confiance. Parce que je pense beaucoup à Yeats, le poète anglais qui disait « Fais attention là où tu rentres parce que t'es en train de marcher sur mes rêves ». Moi, je considère que chaque lecture de thème, je fais beaucoup d'attention à comment je rentre dans ce ciel. Parce que pour moi, c'est rentrer dans un temple. Chaque être humain est un temple. Et moi, mon travail, c'est de montrer à la personne, regarde, t'es unique. Regarde aussi tes zones d'ombre. Faut pas avoir peur d'avoir des zones d'ombre. On est tous humains. Et puis, valorise tout ce que tu portes en toi parce que chaque personne a un cadeau à offrir. Donc c'est... Voilà, pour moi, une lecture de thème, c'est tout ça. Puis après, évidemment, il y a... regarder ça dans un contexte dynamique, de voir voilà, les transits de l'année, la révolution solaire, parce que l'astrologie a ce caractère prédictif. Je sais que pour certaines personnes, dire prédiction, ça peut paraître très, un peu anathème, il ne faut pas le dire, mais je suis désolée. Quand on s'intéresse à l'histoire de l'astrologie, l'astrologie à la racine, c'est de la divination et de la prédiction. Dans notre esprit moderne, on a voulu disqualifier ces deux mots en disant que la divination, c'est pas bien parce que ça montre qu'on n'est pas libre de nos choix et que la prédiction, c'est aussi un carcan. Je suis pas d'accord. Pour moi, la divination, dans son sens le plus noble d'ailleurs, ça veut dire qu'en fait, on est en train de communiquer avec l'âme du monde. Et l'âme du monde, à mes yeux, je considère que le monde dans lequel on vit est intelligent. Je trouve que la vie est très intelligente. Et la création est très intelligente. Il y a une intelligence, le mystère justement, il est insondable certes, mais il existe de l'ordre quoi. Et cet ordre, bah, on est capable de le voir, de le percevoir, de l'interpréter à un moment bien précis, pour quelqu'un de bien précis. Et à partir du moment où on fait ça, bah, on est dans... on est en train de converser avec le ciel, avec l'humain qui est en face de nous, et on se rend compte que, bah oui, on peut tout à fait diviner. C'est être en rapport avec les dieux. Hein. Et ça, c'est magnifique. Et après, le côté prédictif, c'est grosso modo, c'est un peu comme la météo. D'ailleurs, la météorologie, l'astronomie et l'astrologie, à la base, c'était la même chose. Pourquoi on allait voir un astrologue à l'époque babylonienne? C'était pour savoir quand est-ce qu'on allait planter, quand est-ce qu'on allait faire les récoltes, est-ce que c'était le bon moment pour partir en guerre, est-ce que le roi il allait vivre longtemps ou pas, ce genre de choses. C'était vraiment ça, en fait. Donc, surtout dans l'aspect, je dirais, plus météorologique, moi, par exemple, quand je fais des transits, par exemple, c'est vraiment regarder la qualité du temps pour l'année à venir, et que la personne, elle puisse avoir une idée de la météo générale, ce qui à aucun moment annule le libre arbitre. Au contraire. tous les matins, quand on sort de chez soi, on peut regarder la météo. Et en fonction de ça, ben, on va savoir si on doit prendre un parapluie ou pas. Si on doit mettre un manteau plus chaud ou pas. C'est tout. On peut ne pas le faire. On peut d'ailleurs vouloir sortir de chez soi sans regarder la météo. Totalement possible. Donc, et même, parfois, on va regarder la météo et quand même oublier son parapluie. Genre, ça arrive aussi. Donc, en fait, on est totalement libre de composer avec la météo générale. Totalement libre. Et donc, mais à mes yeux, si on connaît un petit peu la musique, on peut mieux se préparer. Et comprendre aussi que parfois des transits difficiles, parce qu'il y en a, y a une fenêtre temporelle. Savoir que quand on est en train de vivre des choses difficiles dans notre vie, déjà, il existe une explication symbolique qui nous permet en fait de prendre de la hauteur et de comprendre qu'est-ce qui est vraiment en train de se jouer. Deux, par rapport à ça, comprendre que ça s'inscrit dans un temps bien précis, et c'est la beauté de l'astrologie, c'est qu'on travaille avec le temps. Et ça, c'est magnifique. De dire à quelqu'un, là, t'es dans le brouillard, ce brouillard, il va encore durer quelques mois. Mais à partir de tel moment, ça va se dissiper. Mais c'est génial, quoi, de savoir qu'à un moment donné, la machine à laver va peut-être nous laisser tranquilles. Mais voilà, et puis d'autres moments qui sont des moments hyper favorables, par exemple, pour lancer un projet, pour voilà, acheter une maison et dire, voilà, là, ça, c'est des dates qui sont géniales. Ne rate pas ces dates. Ce genre de choses, quoi. Donc, en fait, avec l'astrologie, on est en train de faire du prédictif, on est en train de donner une lecture des possibilités en fait qui se présentent, et puis après la personne elle décide qu'est-ce qu'elle fait de ça. C'est tout. Donc c'est vraiment, moi je considère le travail de l'astrologue le travail d'un conseiller. Je suis le conseiller de mes consultants. Donc, quand quelqu'un vient me poser une question, et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'en ce moment, je suis en train de m'intéresser vraiment à l'astrologie divinatoire, qui s'appelle d'ailleurs astrologie horaire, où la personne vient avec une question bien précise. Genre, où est-ce que j'ai perdu mes clés ? J'adore. Non, mais franchement, j'adore. Où est-ce que j'ai perdu mes clés ? Est-ce qu'un astrologue peut répondre à cette question ? Moi, au début de mes études, je disais non. Ah non, attends, non, on va pas non plus s'abaisser à ça. On est là en train de parler de psyché, de spiritualité. Et pourtant, dans une vie, on est bien embêté quand on sait pas où on a rangé nos clés. Donc en fait, il n'y a pas de petites questions. Il n'y a pas de petites questions, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions qui n'a pas le droit d'être posées. Et l'astrologie, quand j'ai découvert l'astrologie horaire, que je suis en train justement d'étudier avec un astrologue qui est un mastodonte d'astrologie, qui est Denis Labouré, incroyable, il est incroyable ce monsieur, on se rend compte que toute question est valide. Et l'astrologie horaire permet de répondre à ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, on rentre dans la richesse du symbole. Parce que souvent, on va se dire, OK, Saturne, principe de contraction, peur, inhibition. Mais Saturne, c'est aussi hiver. Saturne, c'est aussi tous les objets qui seraient dans un coloris noir. Saturne, ça va être aussi des endroits. Donc des endroits froids. Une cave, par exemple. Et ce genre de choses, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on commence à rentrer dans l'aspect divinatoire de l'astrologie, en fait, c'est là où on touche du doigt la richesse symbolique. Et c'est magnifique. C'est magnifique. C'est... C'est incroyable, c'est-à-dire que tu commences à regarder tout ce qui t'entoure et tu constates que ça c'est vénusien, ça c'est martien, martial, pas martien, martial, faut pas dire martien. Martien c'est les petits hommes verts, martial c'est de Mars. Donc voilà, Martial, ah ça, ça va être neptunien, ça, c'est... Et en fait, on commence à comprendre que oui, on peut répondre à tout grâce à ce support-là. L'astrologie horaire, le principe, c'est quelqu'un vient avec une question, l'astrologue découvre la question, et à ce moment-là, il regarde le ciel. Et à partir du ciel qu'il regarde, il est en capacité de donner des réponses. Truc de dingue. Moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit non. Oui. Et c'est une des formes d'astrologie les plus anciennes. Quand on allait voir l'astrologue à l'époque babylonienne, c'était est-ce qu'on va gagner la guerre? Et l'astrologue, il prenait la question, il regardait le ciel et dit oui, c'est favorable, non, c'est pas favorable. Et ce qui est très intéressant, c'est quoi? Parce qu'en fait, on se base sur le moment présent pour ça. Et le moment présent, c'est Kairos. Kairos, en fait, c'est une allégorie d'un être, en fait, qui a une touffe de cheveux sur le devant de la tête et le derrière du crâne qui est rasé. Et en fait, pour les Grecs, il fallait attraper Kairos quand il se présentait. Parce que s'il passe, on le rate, on ne peut plus l'attraper. Et ça, c'est le moment présent. Tu vois le moment présent, tu l'attrapes, tu vois ce qu'il est en train de te révéler, puis après, tu le libères. Et ça, c'est d'une beauté aussi, je trouve, extraordinaire. C'est un peu... Ça me fait penser aussi beaucoup au... Parce que j'ai eu la chance d'aller en Amazonie et je suis allée dans une tribu. Et je me rappelle, il y avait un monsieur, donc un Indien, hein, qui disait, voilà, quand on part dans la forêt, ben, tout nous parle. On est capable de tout lire. On va comprendre que s'il y a une fleur qui est en train de pousser à ce moment-là au niveau d'un tronc d'arbre, c'est parce qu'il y a eu tel truc. On va comprendre. Tout parle, en fait. Toute la forêt parle. Il m'avait dit ça. Toute la forêt parle. Et moi, c'est... OK, en fait, le monde parle. Et ça, c'est les fameux signes. Donc, il faut savoir les déchiffrer. Voilà, donc ça c'est un peu là où j'en suis et là où je veux aller.
Donc aujourd'hui on peut venir te voir pour une lecture de thème de naissance, pour de l'astrologie horaire déjà.
Pas encore, ça va arriver, ça va arriver.
On peut venir pour une révolution solaire, pour nos transits.
Exact, pour l'instant c'est ça. Et puis j'ai aussi en fait, à cause du travail que j'ai fait justement sur les constellations, je propose aussi, là je commence à proposer ça, c'est la lecture du thème stellaire de quelqu'un. C'est-à-dire que autant le thème astral, disons le thème planétaire, hein, qui est celui qu'on connaît tous, voilà, Vénus en Lion, Saturne en Scorpion, et ainsi de suite, ça, en fait, c'est basé sur notre système solaire. On travaille qu'avec une seule étoile, la nôtre, le Soleil, la Lune et les planètes du système solaire. Mais en fait, on se rend compte, quand on remonte dans le temps, que les anciens, ils travaillaient aussi avec les étoiles. Et en fait, les étoiles, dans la perspective antique, dans la perspective ésotérique antique, parlent en fait de la dimension spirituelle en fait d'une incarnation. C'était quoi le message? Vous savez, pourquoi je suis là? Pourquoi je me suis incarnée? Qu'est-ce que je fais ici? Cette question de base, je pense que tout le monde à un moment donné s'est posé la question, c'est pas possible quoi. On se pose tous la question de savoir, mais qu'est-ce que je fais ici? Et ben les étoiles permettent de voir ça. Et c'est magnifique parce qu'en fait, on se rend compte que les étoiles, et on va travailler d'une façon bien spécifique pour les isoler, lesquelles, hein, parce qu'il y a 6000 étoiles, lesquelles on va privilégier dans la lecture d'un thème. Donc il y a des techniques magnifiques d'ailleurs. On travaille avec la sphéricité de la voûte, hein, on travaille vraiment avec tout, quoi. Et on isole les étoiles principales. Et en fait, ça permet de comprendre c'est quoi les grands messages spirituels. Déjà, qu'est-ce qu'on porte avec nous? Qu'est-ce qu'on est censé apprendre ici? C'était quoi les grands messages, disons, de la première partie de notre vie, donc de 0 à 30? C'est quoi les grands messages de 30 à 60? C'est quoi les grands messages de 60 jusqu'à la fin de ma vie? Donc ça, c'est les étoiles de l'aube, les étoiles de midi, les étoiles du crépuscule. Et puis, c'est quoi ma signature? Qu'est-ce que je laisse ici? Et ça, c'est les étoiles de minuit. Et c'est magnifique. Ça aussi, c'est magnifique. Parce que là, pour le coup, on monte d'un cran. On va aller regarder les messages fondamentaux, en fait, qui préexiste quelque part cette fameuse incarnation de l'âme qu'on regarde dans un thème astral de base. Donc c'est la dimension spirituelle de quelqu'un. Et c'est magnifique. Donc voilà, donc ça aussi.
Trop bien. Donc toi, en fait, quand on vient te voir, tu nous donnes les clés pour qu'on ouvre les portes de notre âme, finalement.
Ouais, parce qu'en fait, ce que je constate, et c'était pas du tout prémédité de ma part, hein, c'est très drôle d'ailleurs. Quand j'étais petite, j'avais 4 ans. Apparemment, je me rappelle pas, c'est mon père qui me raconte cette histoire. Je suis allée voir mon père. Et j'ai dit, mais papa, pourquoi les gens, ils ont peur de mourir? Et mon père qui me regarde me dit, mais lui qui a une peur, terreur de ça, il me dit, mais Paula, c'est évident, ça fait peur, on ne sait pas, mais c'est terrible. Et moi, je le regarde, je dis, mais papa, il ne faut pas avoir peur. Et il me dit, mais comment ça, il ne faut pas avoir peur? Il dit, papa, parce qu'on est, on meurt, on est, on meurt tellement de fois. C'est tellement normal. Et là, il me dit, mais comment tu sais ça? Et moi, je dis, bah, papa, parce que ça m'est arrivé, papa, des tonnes de fois. Et là, il croit pas ses oreilles, tu vois. Et il me dit, mais tu te rappelles de quelque chose? Et là, visiblement, j'ai arrêté de parler, je suis redevenue enfant, je suis allée jouer. Et effectivement, j'ai toujours eu cette conviction intime, mais c'est hyper fort, j'arrive pas à expliquer, c'est comme ça. Ben, que la mort, c'est un passage, qu'on revient beaucoup de fois et que c'est comme ça, quoi. Mais ce qui est magnifique, c'est de comprendre, ok, si on revient beaucoup de fois, c'est probablement parce qu'il y a des choses qu'on doit comprendre, apprendre. Donc, qu'est-ce qu'on doit apprendre? À mes yeux, hein, une existence, si tu es ici, aujourd'hui, qu'est-ce que tu es censé apprendre? Pour que tu puisses, effectivement, essayer en tout cas de faire un pas de plus vers la lumière. C'est tout. La lumière étant effectivement... Ben, les bouddhistes, d'ailleurs, dans le Bardo Todol, le livre des morts tibétains, ils expliquent qu'effectivement, quand on se désincarne, donc on passe... tout est très, très bien expliqué, quoi. Genre, il y a vraiment un vademécum, quoi. C'est incroyable, quoi. Tu comprends exactement toutes les phases par lesquelles tu passes au moment de ta désincarnation et tout ça. Et arrive un moment donné où tu reviens à l'esprit. Tu reviens à la source. Tu reviens à ce qu'on pourrait appeler Dieu, par exemple. On est un peu dans le giron, quoi, de Dieu. Mais en fait... ce qui se passe, c'est que souvent, on n'arrive pas à rester très longtemps. On n'arrive pas à rester très longtemps. C'est, bon, évidemment, c'est la question du temps, c'est complètement différent sur d'autres plans, mais disons qu'il y a cette notion de quand on réintègre le principe, à un moment donné, ben, on veut se distancer aussi de ce principe. Donc, en fait, c'est ça aussi qui va provoquer l'incarnation. Je trouve ça génial. Et ce que je trouve particulièrement incroyable, c'est que les personnes... qui arrivent à atteindre un niveau d'illumination, les bodhisattvas, les personnes qui comprennent l'illusion, genre, et qui voient le cycle d'incarnation, de réincarnation, qui voient cette fantastique roue du samsara. Mais en fait, ce qui est beau, c'est que même ces gens-là qui auraient pu réintégrer le principe et y rester, par compassion, reviennent ici. Et je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. Mmh. Ben, ça me donne de l'espoir. Tu vois.
Trop bien.
Ouais.
Je pense qu'on va rester là-dessus parce que c'était vraiment une super fin. Merci beaucoup, Paula.
J'espère que cet épisode vous a plu et que ça vous a donné envie de plonger encore plus dans l'univers incroyable de Paula Van Grut. Je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode au cœur du Lotus.